monsieur. Bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
La plus
belle. Hola, vous êtes à l'écoute de ce Canu Info du jeudi 5 décembre 2024. Je suis Delphine et je suis accompagnée au micro Khmer Vert par Laurent. Vas-tu bien?
Oui.
Alors oui, il va bien, donc vous aurez compris. Nous allons parler ce soir du Proche-Orient en partant du côté du rapport par exemple sorti par Amnesty International concernant les exactions et le génocide d'Israël sur les Palestiniens et les Palestiniennes. Nous irons faire un tour un petit peu long du côté de la Syrie. Nous irons en Arabie Saoudite, en Namibie pour donner suite à ce qui s'est passé au niveau des élections dont nous avons parlé la semaine dernière. Nous partirons en Corée du Sud et nous parlerons animal pour terminer. Nous parlerons du loup.
Oui, et en cette journée de mobilisation, avec une grosse grève dans la fonction publique, plutôt suivie, hein, notamment dans l'éducation, et un peu moins de manifestants et manifestantes dans la rue, on ne va pas en parler plus que ça. Tout le monde s'épanche, hein, sur Barnier, son éviction, ce que va faire Macron. Ce sera dans une heure qu'il va en parler.
On avait quand même un mot du jour.
Oui, c'est le mot que tout le monde a utilisé. Donc il paraît qu'on risquait le chaos suite à cette motion de censure. Elle a été votée donc hier. Bon, on voit toujours pas le chaos. Je pense qu'à force de crier au loup, comme on dit, eh ben à la fin, on va se faire surprendre par quelque chose. Mais voilà, faut pas crier au loup quand il n'y a pas de loup. Et
non,
c'est
on rappellera
peut-être la leçon à retenir.
Ce qui s'est passé hier, c'est fait dans le cadre de la République française et de sa démocratie. L'extrême droite et l'extrême gauche n'ont pas volé la place de monsieur Barnier, hein, parce que pour l'instant, de toute façon, on ne sait pas qui sera à sa place et on ne va certainement pas supputer sur tout ça. Mais c'est vrai que les médias ont largement participé à cette folie du chaotique, ouais. Soit en parlant carrément de shutdown, comme si on était de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis d'Amérique, alors que ce n'est absolument pas ce qui va se passer. Certes, là, c'est une problématique, hein, qu'il n'y ait pas de budget 2025, du budget de la Sécu ou le budget de loi de finances.
Que ce soit celui de l'année dernière qui soit reporté.
Mais on n'est pas dans une situation à l'américaine. Et puis ce chaos, cette crise financière qui d'un seul coup déboulerait, elle est là depuis un moment. On va arrêter de se flageller sur quelque chose qui existe depuis déjà un certain nombre de mois. Effectivement, comme tu le disais, à 20h, on saura si monsieur Macron va causer dans le micro pour rien dire, va ressortir une grande idée farfelue. Alors évidemment, tout le monde s'emballe en disant qu'il va sortir sortir l'article 16 qui va voler, il va voler les pouvoirs à tout le monde. Alors, il pourrait, hein, on va parler de la Corée du Sud tout à l'heure, on voit bien ce qui peut se passer à l'étranger quand un président pète un câble. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis, c'est vrai que voilà, tout est parti dans le délire. On n'allait plus pouvoir utiliser notre carte de sécurité sociale pour aller à la pharmacie ou chez le médecin. Tout est n'importe quoi, et parfois, même par des médias, excusez-moi, mainstream, hein, même pas d'extrême droite ou complotiste, vous voyez, mais chacun et chacune y est allé de travers. Alors, en rétablissant évidemment un certain nombre de vérités pour une partie de ces médias mainstream, mais quand même, on a un peu tout entendu. On va se calmer. La démocratie n'a pas sauté, il n'y a pas de coup d'État, et nous attendons donc le fameux discours de 20h.
Ouais,
voilà, on vous rappelle que sinon à 20h, vous pouvez aussi écouter nos camarades de la petite cuillère.
Tout à fait. On saura s'il a trouvé un remplaçant, un de ses copains, ou il va faire de la manipulation. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc, du coup,
en tout cas, nous allons parler
pour
grosse actu internationale.
Ouais, on va faire de l'international.
On va aller voir ailleurs ce qui se passe.
On va aller voir ailleurs parce que ça nous a fatigué ici. Donc, le ailleurs, donc, comme tu l'as annoncé, c'est le rapport d'Amnesty International qui est paru aujourd'hui, qui a beaucoup énervé Israël, puisqu'ils accusent officiellement Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, c'est-à-dire depuis à peu près un an. Donc c'est intéressant d'avoir ça parce que Amnesty International, c'est pas une organisation d'extrême gauche, c'est une ONG, il y a des règles, ça fonctionne de manière classique, c'est pas un groupe politique, donc c'est beaucoup moins attaquable que si ce sont des militants pro-palestiniens, puisque les militants pro-palestiniens, comme on les qualifie, comme on peut nous qualifier, on dit qu'il y a une tentative de génocide en cours depuis déjà de nombreux mois. Là, bah voilà, ça va au-delà de notre ressenti, de notre constatation, puisque c'est un rapport avec pas mal de contenants, enfin de contenu dedans, dans ce contenant, et on a quand même 300 pages pour nous expliquer à base d'arguments pourquoi Amnesty International arrive à ça. Donc ils expliquent bien, c'est depuis l'attaque donc du 7 octobre faite par le Hamas et la guerre qui a été enclenchée derrière. Alors ils expliquent, hein, Amnesty, qu'ils sont basés sur des déclarations génocidaires et déshumanisantes qui viennent du gouvernement israélien. Ça, c'est leur première source. Deuxièmement, ils sont basés sur les images, notamment des images satellites qui montrent la dévastation du territoire et des zones civiles du territoire palestinien, et aussi des recherches, des interviews de gens sur le terrain, donc entre le 7 octobre de l'année dernière et juillet de cette année. Donc c'est leur rapport, il est basé sur les critères qui sont définis par la Convention des Nations Unies sur le génocide, qui définissent ce que c'est, dans quel cas on peut parler de génocide, dans quel cas on ne peut ne pas en parler. Donc voilà, et c'est Agnès Callamard qui a eu droit de présenter ce rapport et de se prendre les critiques aussi en pleine figure de la part de l'extrême droite israélienne et d'Israël tout court d'ailleurs, enfin en tout cas de l'État. Donc elle rappelle qu'ils ont constaté des attaques délibérées sur les civils et sur les infrastructures civiles. Ils ont constaté l'usage d'armes hautement explosives dans des zones abondamment peuplées. Ils ont constaté les entraves à délivrer l'aide humanitaire dans le territoire. Et ils ont constaté un déplacement forcé de 90% de la population. Imaginez déplacer 90% de la population d'un pays, et c'est quasiment un pays, hein, la bande de Gaza, c'est presque 3 millions d'habitants. Enfin, c'était. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a des accusations. Israël a chaque fois rejeté les accusations. Pour se défendre, ils disent. Alors, ils rejettent les accusations, mais ils disent le Hamas utilise les civils comme bouclier humain. Ce qui laisse entendre qu'en fait, c'est normal, s'ils bombardent les civils, c'est parce que c'est le Hamas qui les a mis devant. Donc, ils ne réfutent pas d'attaquer les civils. Hein, ils trouvent une bonne excuse d'assassiner les civils. Je vous rappelle le bilan, hein, 1208 personnes assassinées par le Hamas le 7 octobre 2023. On est à 44 532 morts actuellement à Gaza, d'après les chiffres reconnus par l'ONU, donnés essentiellement par le ministre de la Santé du Hamas à Gaza, mais qui sont vraiment des chiffres crédibles et sérieux. Donc voilà, il y a une vraie volonté de génocide. Alors à travers les actes de guerre, à travers le fait que, je vous rappelle qu'il y a eu des discours qui disaient à Gaza, il n'y aura pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz. Donc quand vous avez 2,4 millions, pour aller vite, de personnes qui vivent sans électricité, sans eau, sans gaz, vous êtes sûr qu'à la fin, vous faites tout pour les faire mourir, bien évidemment, surtout quand vous empêchez souvent l'acheminement de l'aide humanitaire. Donc voilà, alors Agnès Callamard d'Amnesty a détaillé un petit peu les choses. Elle a rappelé, elle a dit Israël se sert de l'excuse de se défendre face à au mouvement islamiste palestinien, mais elle rappelle que c'est pas parce qu'on se défend contre un mouvement terroriste qu'on doit mettre en œuvre des pratiques génocidaires contre des populations civiles. Alors ils ont donné des exemples, ils ont pris 15 frappes aériennes menées entre le 7 octobre de l'année dernière et le 20 avril de cette année, qui ont tué 334 civils, dont 141 enfants, et pour laquelle personne, ni l'organisation, ni les journalistes, ni qui que ce soit, n'a trouvé aucun lien avec une cible militaire. Donc il y a au moins 15 frappes, 334 assassinats civils volontaires, sans qu'il y ait de lien avec le Hamas. Et là, c'est difficilement réfutable, hein, quand on a ça sous les yeux, on se dit, ouais, là, ça va être compliqué pour se défendre. Le document évoque aussi tous les propos qui ont été tenus par des responsables, par des responsables politiques, par des soldats et par des hauts gradés. Notamment ces phrases qui disent, par exemple, qu'ils veulent l'anéantissement, la destruction, l'incendie, l'effacement de la bande de Gaza. C'est les propos tenus par les Israéliens eux-mêmes, des propos qui soulignent une sorte de volonté systémique de tuer tous les Palestiniens de la bande de Gaza. Et comme elle le dit, et comme le dit Amnesty, en fait, même si c'est pas un discours officiel, c'est un discours que tout le monde entend dans les médias israéliens et qui fait que les militaires se sentent libres de se lâcher. Et c'est un peu ça aussi dont il est question. Alors, comme elle le rappelle aussi, toujours Agnès Callamard, les gouvernements doivent arrêter de prétendre qu'ils n'ont aucun pouvoir pour mettre fin à l'occupation, l'apartheid et le génocide à Gaza. Elle rappelle ça. En fait, elle rappelle, et là ça va faire un petit peu mal, les États qui envoient des armes vers Israël violent les obligations d'empêcher un génocide et risquent d'en devenir complices. Ça c'est une petite tacle dans la tête à Macron et de ses amis marchands d'armes, puisqu'on rappelle que la France continue de vendre des armes à Israël. Donc l'ONG a également annoncé qu'elle publierait un rapport, pour des raisons d'équilibre, sur ce qu'a commis le Hamas le 7 octobre 2023. Alors, on a une bonne idée des horreurs qui ont été commises ce jour-là, mais c'est une organisation terroriste, c'est pas un État, et on n'est du coup pas dans la même démarche génocidaire, puisque là il y a une vraie démarche génocidaire si on regarde les images, si on regarde tout ce qui a été fait et ce que confirme ce rapport. Donc voilà, c'est un travail sérieux. Bien sûr, Israël rejette, ils disent, l'État israélien dit que c'est tout est inventé, enfin voilà. Bon, bref, il y a quand même 15 exemples qui sont détaillés et c'est difficile d'inventer parce qu'on a quand même du coup les images satellites, il y a plein de preuves. Alors, oui, non ? Toujours en Israël, pendant que voilà, on parle de ça, l'armée continue de faire des petites choses en douce et notamment d'installer des infrastructures militaires qui semblent vouloir perdurer sur la durée. Alors, il y a eu un rapport, une enquête plutôt, du New York Times, grand journal américain. Et ça a un peu énervé. Du coup, les États-Unis ont réagi en disant, mais attendez, nous, on le rappelle, depuis un an, on est contre l'installation de bases permanentes militaires par l'armée israélienne à Gaza. Oui, c'est gentil de le dire, mais c'est le porte-parole hein, du département d'État qui s'appelle Vedant Patel qui l'a annoncé. Il a dit que le gouvernement Biden s'oppose à ce genre de choses, etc. Le truc, c'est que l'investigation du New York Times s'est appuyée elle aussi sur des images satellites, sur des vidéos publiées notamment par les soldats israéliens eux-mêmes et sur les dires des responsables militaires. Et il y a une vraie constatation autour du fameux corridor de Netzarim. Netzarim, c'est le nom d'une ancienne colonie colonie israélienne qui était dans la bande de Gaza. Ce corridor, il est à peu près au milieu, là, il partage le nord et le sud de la bande de Gaza. Et là, il y a une vraie épuration ethnique et physique, puisqu'ils détruisent tout, en fait, pour installer des bâtiments militaires, notamment. Alors, le but officiel, c'est contrôler le passage des Gazaouis entre le sud et nord pour éviter la reconstitution des forces du Hamas. Ça, c'est le discours officiel. En fait, derrière, on sent qu'il y a la volonté de vider le nord de la bande de Gaza de sa population et de l'empêcher, ces gens qui sont déplacés, ces Palestiniens qui sont déplacés au sud, de revenir chez eux. Donc, ils détruisent tout, ils construisent des bâtiments de l'armée à la place. Et il y a à peu près 45 km² autour de cette zone-là, de ce corridor, où il n'y a plus de bâtiments civils. Ils ont détruit tous les bâtiments civils pour installer des bâtiments militaires. On a 620 qui ont été rasés pour installer des bâtiments militaires. Donc il y a une vraie volonté, c'est le journal américain, le New York Times, qui le constate, d'installer des infrastructures militaires pérennes à cet endroit-là, laissant entendre ce qui confirme les propos de certains militaires qui veulent occuper le nord de la bande de Gaza, voire toute la bande de Gaza. Et pendant ce temps, dernière info sur la situation là-bas, l'extrême droite religieuse continue de mettre la pression sur leur copain Netanyahou, puisque les partis ultra-orthodoxes et le parti Haredim préparent une petite manœuvre politique qui va pas faire plaisir, enfin, qui va mettre la pression sur Benjamin Netanyahou, puisqu'il, en fait, c'est toujours au sujet de la participation des religieux, des croyants qui sont dans les écoles religieuses, les yeshivas, à la guerre ou pas. Eux, ils s'opposent à la participation à la guerre. Il y a des gens autour de Netanyahou et dans la société israélienne qui disent que tout le monde doit être mobilisable. Et comme ils n'arrivent pas à faire plier totalement Netanyahou, ils ont trouvé un nouveau moyen. Ils vont faire deux propositions de loi à la Knesset. La première proposition de loi, c'est une proposition qui va autoriser les étudiants dans les écoles talmudiques à ne pas faire le service militaire obligatoire. Donc ça, on se dit, ça passe ou ça passe pas. Le problème, c'est qu'ils ont ils vont proposer une deuxième loi. La deuxième loi, c'est un arrêt de la Knesset, comme ça s'est passé à l'Assemblée, ou presque quand Macron l'a dissoute. Voilà, il veut dissoudre une proposition de loi pour dissoudre la Knesset, donc de tout virer et notamment virer Netanyahou. Donc si la première loi passe pas, ils veulent voter cette deuxième loi. C'est un beau petit chantage. C'est pas mal. Donc voilà, ça remontre un peu que quand on a l'extrême droite à côté et qu'on fait des compromis avec l'extrême droite, ce qu'a fait Barnier en France, où il a négocié en permanence avec l'extrême droite, à la fin ça te revient en pleine gueule, parce que l'extrême droite appuie de plus en plus, demande de plus en plus de choses. Et là, c'est ce qui arrive aussi à Netanyahou. Alors lui, il est plutôt du genre à plier, il leur donnera tout, et c'est ce qu'on verra et ce qu'on vérifiera ou pas dans les semaines qui viennent. Mais voilà, grosso modo, s'il n'y a pas une dissolution de la Knesset, c'est que Netanyahou a accepté que les religions ne participent pas à la guerre.
On va partir en Syrie. Vous savez donc que depuis le 27 novembre dernier, il y a une offensive qu'on pourrait dire que c'est fulgurant. Non, c'est vif en tout cas. Donc une offensive dans le nord-ouest de la Syrie. Je pense que pour se remettre en place un peu les idées sur la Syrie, il faut ressortir une carte. Alors certains médias comme Libération ont sorti des jolies petites cartes avec des couleurs qui permettent de comprendre quelles forces sont sur quel territoire et qui détient quoi. Ça permet de comprendre un peu mieux aussi que ce qui se passe aujourd'hui dans ce nord-ouest de la Syrie, c'est quand même assez loin de Damas pour l'instant. En tout cas, c'est donc une coalition de groupes qui se sont bien entendus, qui mènent cette offensive. La ville d'Alep est donc aux mains du groupe Hayat Tahrir el-Sham, dont on va parler en particulier ce soir. Il faut se souvenir qu'Alep, c'est la deuxième ville du pays, quand même. Et on sait que d'autres secteurs à côté, avec des villages, sont aussi on virait en fait l'armée syrienne, si elle était encore possible qu'elle soit par là. Donc cette offensive est lancée depuis le 27 novembre. Cette semaine, tout s'est accéléré et il y a plusieurs blocs qui vont constituer cette coalition dont je vous parle à l'instant. Il faut savoir que déjà pour Hayat Tahrir el-Sham, qui est le groupe principal dans cette offensive, on a un peu du mal à estimer pour l'instant le nombre de combattants qu'il pourrait y avoir. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, En 2018, il y aurait eu 30 000 combattants. Mais pour d'autres instituts d'analyse ou d'observateurs et d'observatrices, on serait à 20 000, voire à 10 000 combattants. Ce qui est déjà beaucoup, hein, quand même, il faut se rendre compte. Alors, à côté de ce groupe, je vous rappelle, ça veut dire Organisation de Libération du Levant, hein, Ayad Tahrir al-Sham. Il y a plusieurs groupes. Il y a ce qui reste de l'armée syrienne libre. C'est un groupe qui s'était monté en 2011, qui s'est délité à partir de 2017. Et une partie de ces combattants de l'armée syrienne libre ont rejoint à partir de 2017 l'armée nationale syrienne. C'est l'organisation qui serait... parce que les Turcs, ils sont pas contents, si je mets pas du conditionnel, soutenu par la Turquie, donc, par l'État turc, mais qui a fait savoir ce lundi qu'il n'y avait aucune ingérence étrangère de la part de la Turquie dans ce qui est en train de se passer en Syrie.
Ouais, pourtant, ça n'a pas l'air très clair, ouais, c'est ça.
Ouais, ouais, parce qu'il y a d'autres groupes pro-turcs qui s'affrontent régulièrement avec les forces kurdes, hein, dans le nord de la Syrie, qui sont aussi à la manœuvre. C'est le cas, par exemple, vers une ville qui s'appelle Tal Rifat, où là, ces groupes ont viré les Kurdes. Voilà, et donc il y a des combats constants dans cette région.
La Turquie profite là, de ce qui se passe pour attaquer les Kurdes. Donc, s'ils n'étaient pas au courant, c'est quand même compliqué.
Donc, il y a des mouvements qui sont nombreux. Hein, les Kurdes participent aussi à l'idée de faire tomber Bachar el-Assad, mais en tout cas là on voit que chez les groupes islamistes, il y a eu quand même un rassemblement et une tentative d'union pour faire tomber Bachar el-Assad. Alors moi ça m'a interrogé aussi beaucoup parce qu'en lisant toute cette presse, je me suis demandé c'est quoi aujourd'hui Ayad Tahrir al-Sham? Est-ce qu'il faut faire comme le Hezbollah, continuer à les traiter de terroristes, ou comme avec le Hezbollah, tenter de dire aussi que c'est un groupe de résistance parce que le Hezbollah avait viré l'occupation israélienne?
Et puis là, ils se battent contre un dictateur sanguinaire.
Voilà, et c'est là aussi, alors j'ai été un peu chercher tout plein de choses, hein, on va y revenir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les communiqués d'Abu Mohamed al-Joulani, le chef de ce groupe, cette organisation de libération du Levant, je vais y arriver, qui, par exemple, communique en disant qu'à Alep, il faut que les combattants de l'organisation respectent les civils. Il y a à peu près 2 millions d'habitants, il y a une minorité chrétienne à Alep, hein, et le chef annonce qu'il faut protéger les minorités. Donc, des annonces qui sont quand même assez curieuses. Il faut savoir que Abu Mohamed Joulani, c'est un Syrien. Il a combattu d'abord en Irak. Il avait rejoint Al-Qaïda, hein, contre les forces des États-Unis d'Amérique. Il a fait son petit chemin et puis il a été arrêté par l'armée américaine. Il a été détenu pendant 2 ans. Et puis, il s'est rapproché à sa sortie de l'État islamique en Irak, à côté de Abu Omar el-Baghdadi, hein, qui a fait beaucoup parler de lui. Et puis en 2011, il a rejoint finalement la Syrie pour combattre aux côtés d'autres groupes. Il a formé en ce moment-là le front Al-Nusra. Et à ce moment-là, il faut rappeler Al-Nusra, ça a été désigné comme organisation terroriste. Et il faut aussi se souvenir que Al-Nusra, c'est lié à Al-Qaïda. C'est-à-dire qu'à un moment... Il a fait plusieurs détours, hein, il est parti, il s'est, avec son groupe, détaché de l'État islamique et de leurs pratiques, pour un moment se rapprocher d'Al-Qaïda, et puis finalement il a rompu aussi avec Al-Qaïda, il va former le front Fath al-Sham, et ce front va s'unir avec d'autres groupes pour créer Ayad Tahrir al-Sham. Donc... son idée à lui, Al-Joulani, c'est toujours de rapprocher les groupes, de les unir et de faire un gros front de combattants rebelles contre Bachar el-Assad. C'est ça son idée, hein, en fait, hein, vraiment, c'est de réconcilier tout le monde et de mettre tout le monde d'accord. Alors, il faut savoir que cette organisation, elle contrôle Idlib. Et avait mis en place un gouvernement autoproclamé, avec des services de santé, des services financiers, une police. Voilà. Et ce qui fait que quand ils sont arrivés, ces combattants, au sein d'Alep, ils ont amené un peu les mêmes pratiques. Ils ont tenté, ces combattants, d'amener avec eux tous les services pour remettre l'électricité, l'eau en place. Je sais pas que ça marche, hein, mais en tout cas, c'est l'idée de remettre aussi des services de santé, de réouvrir tout ce qui pourrait continuer à la vie, si vous voulez, au sein d'Alep. En tout cas, de pas se mettre la population à dos. Donc cette grande offensive, aujourd'hui, elle est aux portes de Hama, hein, c'est la 4e ville du pays, donc évidemment, ça a grossi, mais la question est de savoir où est-ce que veulent aller ces groupes, et est-ce qu'ils vont rester unis jusqu'au bout, ces groupes. En tout cas, le groupe Ayad Tahrir al-Sham se présente donc aujourd'hui comme un mouvement islamiste révolutionnaire. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, elle est quand même de sortir de l'image du groupe terroriste. Et de dire, on est aujourd'hui en place en Syrie, on est un groupe que syrien, on ne veut pas de force extérieure, et on veut libérer notre pays d'un dictateur.
Ouais, ça fait un peu révolution iranienne, quoi.
Ça fait un peu que en fait on a aussi deux groupes musulmans qui sont aussi et toujours en opposition. Alors du côté de Bachar al-Assad, ça pue, hein, faut le dire quand même, parce qu'il perd un peu tous ses amis. Pas tant qu'ils veulent plus être amis, c'est que juste que l'Iran et la Russie sont occupés sur d'autres fronts. L'Iran avec les problématiques face à Israël, le Liban et Gaza, et puis la Russie avec l'Ukraine. Donc il y a on va dire qu'on a un dictateur qui va être bientôt un peu seul.
Ouais, mais d'ailleurs, c'est en partie à cause des attaques d'Israël sur l'axe, l'axe iranien, là, qui a attaqué pas mal le Hezbollah et toutes les milices iraniennes qui étaient présentes, notamment en Syrie, parce qu'il y a eu des bombardements en Syrie. Et c'est ça qui a enlevé un petit peu des gens qui servaient à défendre Bachar el-Assad, et ces groupes islamistes, ils profitent de ça. Ils profitent que l'Iran est en difficulté, que l'Iran et toutes ses milices sont en difficulté, parce qu'ils disent c'est le moment d'y aller, en fait.
Alors, elle vous l'a mis dans la main un peu à tout le monde, parce que je vous disais, il y a les groupes, évidemment, islamistes, qui l'essayent de rassembler, et puis il y a les Kurdes. Il a dit, les Kurdes syriens ont le droit de vivre dans la dignité, la liberté, comme tous les autres Syriens. Dans la future Syrie, nous pensons que la diversité sera notre force, et non une faiblesse.
Ouais, il essaye d'avoir un discours un peu
rassembleur,
ouais,
d'unité contre Bachar al-Assad. Mais c'est quand même assez dingue de lire ça, hein. C'est-à-dire que on a un groupe qui essaye de rompre avec ce qui pouvait être un djihad de l'État islamiste ou d'Al-Qaïda, avec un terrorisme, et donc de se montrer aussi peut-être face à l'Occident, les États-Unis d'Amérique en particulier et l'Europe, comme étant des interlocuteurs potentiel pour l'avenir en Syrie, et en tout cas pour qu'il y ait peut-être un soutien aussi qui soit plus clair.
Alors, ou qu'il n'y ait pas d'attaque, en tout cas.
Bon, en même temps, qui va aller soutenir pour l'instant Bachar el-Assad, à part,
les Russes et l'Iran, oui.
Voilà, bon. Alors, c'est un peu compliqué, hein, quand même, tout ça. Alors, c'est un mouvement islamiste, rigoriste, conservateur, mais qui est présenté comme... différent de ce que pouvait être l'État islamiste ou des talibans qu'on parle ces derniers temps, qui revient dans la presse, hein, avec les femmes qui n'ont plus le droit d'aller à l'école, qui n'ont même plus le droit d'exercer des métiers qui pour l'instant étaient réservés aux femmes, comme le métier de sage-femme par exemple. Donc on pourrait dire que c'est voilà, on n'est pas face à des talibans. Les femmes peuvent aller à l'école, à l'université. Il paraît même que, par rapport à Al-Qaïda ou l'État islamiste, les gens peuvent fumer, par exemple.
Mais on a l'impression qu'ils se rapprochent justement de la révolution iranienne, avec un islam rigoriste. Alors c'est pas le même, ils ont pas le même islam, mais c'est un peu ça qui est dit, tout en gardant une société ultra réactionnaire.
Alors aujourd'hui, on voit ce que devient l'Iran. Effectivement, on espère que ça soit quand même plus souple. En tout cas, voilà, on a du mal quand même à cerner ce groupe principal, mais voilà, on a un groupe sunnite, il y a des chiites de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les alliances, c'est ça tout l'enjeu. Et puis il y a quelque chose qui est extrêmement important de bien comprendre, c'est que dans ce groupe il y a effectivement des gens qui venaient de groupes dits terroristes avant, des combattants, mais on a aussi des gens qui sont des déplacés syriens et qu'on en marre et qui ont rejoint cette nouvelle organisation, c'est-à-dire qu'on a une organisation
chez eux, en fait.
qui est duale à l'intérieur. On a des gens qui sont des islamistes terroristes en puissance, des modérés combattants, et puis on a cette population qui en a marre et qui a trouvé un groupe à suivre, qui semble avoir une mainmise et une force importante, qui est armée aussi, qui donc pourrait peut-être à un moment libérer une partie de la Syrie pour que ces gens puissent vivre en paix. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, on le disait tout à l'heure, la Russie et l'Iran sont toujours là, ont affirmé un soutien inconditionnel, c'est le vocabulaire employé, à Bachar el-Assad. Mais voilà, tout le monde est bien occupé quand même. Alors, il paraît que du côté de la Russie, on cherche un peu toutes les excuses. Donc, l'ambassadeur russe à l'ONU a accusé l'Ukraine de soutenir militairement les combattants du groupe Ayat Tahrir al-Hasham. Pourquoi pas, hein, après tout. Mais bon, Ça ouais. semblait un peu sorti de nulle part, cette affirmation. Et puis, il va falloir que la Russie intervienne. Et donc, elle serait en train de vouloir aider l'armée syrienne de Bachar al-Assad à repousser les rebelles dans le nord de la Syrie. Pour l'instant, ça n'a pas l'air très efficace, parce qu'il faut dire que du côté de l'armée syrienne, il n'y a plus grand-chose à aider. Hein, parce qu'il y en a pas mal qui sont faits la malle. Et puis, il y a des soldats qui sont en train d'être ramenés autour de Damas. Parce que ça fouette un peu quand même, hein, ils ont un peu peur. Et puis, ben, y a la Turquie, on aimerait bien savoir ce que la Turquie va faire, parce qu'elle aimerait bien retrouver une Syrie plus calme pour pouvoir envoyer en Syrie les 3 millions de Syriens qui se sont hébergés et qui ont trouvé refuge en Turquie. Hein. Voilà, ça pourrait être pas mal. Monsieur Erdogan, il en a un peu marre, tous ces Syriens. Et puis, y a cette idée quand même de créer toujours cette zone tampon et de virer les Kurdes aussi. Et donc, ça serait quand même bien pratique que finalement ces groupes, qui pour l'instant, en tout cas, ce groupe qui ne voudrait pas déclarer la guerre aux Kurdes, pourrait quand même peut-être s'allier à un moment à la Turquie de Monsieur Erdogan et peut-être finalement se retourner contre les Kurdes. En tout cas, on ne sait pas bien comment ça va se passer parce que ça va très très vite et que il y a des gros enjeux quand même pour la population syrienne derrière.
Tu vas rester dans la région, descendre un petit peu.
Je veux bien que tu parles de la Namibie.
Oh oui, bah, la Namibie, ça va être très court, hein, puisqu'on vous avait parlé des élections hyper apocalyptiques qui avaient lieu la semaine dernière.
On va se calmer avec l'apocalypse.
Non, mais.
Et l'hyper.
Ouais, mais c'était le chaos, quoi. Pour le coup, le terme chaos était pas loin de la réalité. On avait des queues énormes devant les bureaux de vote. Au moment de prendre les empreintes, les tablettes marchaient pas ou marchaient une fois sur deux. Enfin, ça a été très compliqué. Il faut dire qu'il y a eu une très forte participation, je crois qu'on est à 76%. Et on attendait, donc ils ont l'élection s'arrêtait le mercredi, et en fait ils ont repoussé de 3 jours la fin de l'élection pour que tout le monde puisse voter. Et il y avait un enjeu important pour la SWAPO, le parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays suite à la guerre contre le régime de l'apartheid de l'Afrique du Sud en 1990, et parce qu'ils ont toujours gagné, et là c'était un peu plus tendu. Alors le résultat officiel est qu'ils ont quand même gagné, hein, faut quand même le dire. Donc 57,31% des voix, le parti des Patriotes indépendants pour le changement, l'IPC, a eu 25,5% des voix. C'est le candidat c'est le plus gros parti d'opposition. Ce qui change, c'est qu'ils ont que 51 sièges au Parlement au lieu de 63 la fois d'avant. Donc ça diminue à chaque élection. Donc là, il y a des chances qu'ils la perdent la prochaine fois. Alors qui c'est qui a gagné? Bah, c'est cette fameuse candidate de la SWAPO. Donc c'est Netumbo Nandi Ndewa. Donc il s'appelle NNN souvent, parce qu'il y a 3 N effectivement sur chacun de ses noms, qui a gagné. Donc ce qui est remarquable quelque part, c'est que c'est la première femme à gagner en Namibie et la deuxième femme à être présidente en Afrique, sur le continent africain. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est moins bon, c'est que c'est un peu Thatcher à l'africaine, quoi. C'est une dame de fer, donc elle est dans la SWAPO, hein, c'est un parti qui est maintenant plutôt conservateur, voire très conservateur. Donc voilà, l'avortement, c'est pas son truc, le droit à l'avortement, c'est pas son truc, etc., etc. Donc on va voir ce qu'elle va faire, cette dame de fer namibienne. Elle a 72 ans, c'est peut-être la dernière fois que la SWAPO est au pouvoir, sauf si ils arrivent à casser la descente électorale du parti qui a commencé il y a une bonne dizaine d'années. Mais voilà, c'était juste pour revenir sur cette élection.
Oui, elle a annoncé, c'était dans son programme, hein, qu'elle allait créer 250 000 emplois.
Ouais, alors tout le monde se moque parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et
on ne sait même pas où elle va les trouver.
Ouais. Mais ça, c'est comme chez nous.
Quoi. Je veux dire, il faudrait un bouleversement, pour le coup, d'un parti de gauche, et non plus de la SWAPO qui est de droite, ouais. Pour ramener l'économie à la Namibie, et non plus avoir des entreprises extérieures dont on parlait la dernière fois, des multinationales, ouais. Qui viennent en fait exploiter la Namibie pour ses ressources, et finalement avec une répercussion sur la population assez peu importante. On rappelle que la capitale, qui à la base est une petite capitale, voit déferler tous les jours des Namibiens de tout le pays dans ce qui constitue des bidonvilles tout autour de la capitale. Alors certains sont très bien organisés.
Il y a des bidonvilles en dur, ouais.
Mais ça reste des territoires occupés plus ou moins légalement, parce que la municipalité a bien dû à un moment dire que c'était légal et tout. Sauf que
que cette capitale s'étend de plus en plus avec une pauvreté et donc une criminalité importante, bien évidemment, parce qu'il faut bien bouffer.
C'est le deuxième pays le plus inégalitaire du monde.
Et il y a des clans, et c'est un pays qui est difficile toujours pour les femmes, et quand on est noir, alors évidemment, avoir une femme présidente noire, c'est un espoir, mais voilà, elle est de droite, quoi.
Ouais, c'est
et
ça.
Puis de très droite. Hein,
voilà, c'est ouais. Je vous dis, Thatcher à l'africaine. Je leur espère, j'espère qu'elle sera moins Thatcher. Bon, enfin, bon, bref, on verra dans quelques années. Du coup, tu peux parler de l'Arabie Saoudite.
Oui, parce que notre cher président, M. Macron, était donc en balade en Arabie Saoudite avec MBS.
Ah oui, le mec
son
qui
ami qui n'en est
qui
pas
fait
un.
Découper les journalistes, là.
Oui, voilà. Donc, en tout cas, il est content, M. Macron, puisque de nouveaux partenariats stratégiques ont été conclu sur X, le réseau de facho. Monsieur Macron écrit transition énergétique, défense, mobilité, culture et bien plus, nous allons multiplier nos coopérations dans tous les domaines. Alors évidemment, en termes de défense, la France essaye toujours de refiler ses petits rafales, hein, parce que les avions, on ne sait pas quoi en faire. Donc, bon, sans route, hein, tout ça. Mais en tout cas, il y a du partenariat stratégique. Un qui fait jaser, c'est quand même pas mal. j'ai été lire ça sur le site de La Croix. En 2018, il y a eu un accord de coopération avec l'Arabie Saoudite. La France attend depuis avril 2018, depuis cette signature, une somme de la part de l'Arabie Saoudite qui devait être versée au fonds de dotation pour soutenir le patrimoine français, ce qui était prévu donc dans ce texte signé en avril 2018. C'est un dispositif qui devait tenir lieu de contrepartie à un engagement de l'État français. L'idée, c'était pour l'État français de favoriser le développement culturel et touristique d'Aloula. C'est une région nord-ouest hein, du pays. C'est là où il y a des trucs super beaux. Hein, il y a Egra, par exemple. C'est absolument magnifique. C'est un site nabatéen. Il n'y a pas à dire. Il y a des sites archéologiques. Et donc, la France, par son expertise, devait donc soutenir l'Arabie Saoudite et donc recevoir des sous. À l'époque, on parlait quand même du milliard. Hein, mais juste ça comme ça, voilà. Bon. Jusqu'à présent, il n'y avait jamais rien eu. Et là, on a obtenu donc 50 millions d'euros pour le centre Pompidou. Alors, comme le rappelle Lacroix, ma foi, comment dire ? On est loin, déjà, hein, 50 millions. Et puis, en plus, on a un peu l'impression que M. Macron est allé tendre la main pour récupérer ces petits millions.
Il a fait la charité.
Alors qu'on avait promis des sous et qu'il y a eu un investissement de l'autre côté. Bon, il faut dire qu'en même temps, il y a eu quelques petits problèmes. Hein, on rappelle, il y a eu l'assassinat de Jamal Khashoggi quand même, hein. Donc ça a un peu gêné au milieu le voyage de M. Macron qui a dû annuler patatras tout ça, le pognon est pas venu, et puis après il y a eu, bon c'est vrai qu'on a eu plusieurs quand même premiers ministres, hein, tout ça c'est pas facile hein, le suivi dans ces cas-là. Après on nous a annoncé 700 millions, hein, nous rappelle Lacroix, bon sauf que c'est jamais venu non plus, et puis en plus de ça à ce moment-là l'Arabie Saoudite reprend la main et c'est l'Arabie Saoudite qui déciderait vers quel projet y aller. Donc là on sent un peu que c'est curieux d'un seul coup cette manière de faire. Et puis pourtant, donc on a ces 50 millions qui arrivent, et ce qui est bizarre, c'est qu'on a quand même un échange. Puisque je lis ailleurs que la France a signé 9 accords cadres de coopération pour apporter une expertise à l'Arabie Saoudite, hein, qui va devenir hôte de l'exposition universelle de 2030, qui souhaite développer une offre toujours culturelle et touristique, et qui donc a besoin d'un savoir-faire en archéologie. C'est-à-dire que finalement, on compte les 50 millions, on redonne encore quelque chose hein, quand même, voilà. Je dis on parce que bon, c'est nos sous de l'État français. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle que M. Macron n'a certainement pas raté, hein, c'est ce nouveau record. Et 2024 n'étant pas terminé, on pense que le record il va être battu. En 2022, 196 personnes avaient été exécutées en Arabie Saoudite. En 2023, 170. Et pour l'instant, nous sommes donc début décembre, 303 personnes ont été exécutées par cet État. Ma foi, tout à fait démocratique. Hein, et qui pas. Voilà, et qui en plus pratique à tour de bras la peine de mort. Les deux derniers, c'est 4 personnes qui ont été condamnées pour des délits de droit commun et qui donc ont été exécutées par les armes mardi. Voilà, alors on rappelle qu'il y a la Chine et l'Iran hein, devant, mais bon, pff, ouais, voilà, c'est moche hein, quand même. C'est moche parce que l'année n'est pas finie, que M. Macron, ça ne le gêne pas trop. Et puis à côté de ça, on a le dernier rapport de 79 pages de Human Rights Watch qui détaille par la manière les conditions de travail des travailleurs migrants à chaque étape de leur parcours. Donc c'est un peu du travail forcé, de l'esclavage, vous voyez, de l'exploitation. Hein, allez, exploitation. En particulier, donc, une exploitation sur les chantiers du grand plan Vision 2030 hein, de MBS. C'est chouette, hein, ce plan. Ouh là là, et ça va être beau, l'Arabie Saoudite, demain. 155 entretiens menés donc par cette organisation des droits humains, qui rappelle qu'il y a des frais de recrutement demandés aux candidats à l'emploi, des salaires qui ne sont pas payés, et que, surtout, il y a des conditions de travail à la chaleur qui sont... extrêmement difficile. En 2024, 884 travailleurs bangladais sont décédés en Arabie Saoudite, nous rappelle cette ONG, et que tout le monde s'en fout, en fait. Et que, en plus de ça, en 2034, il va y avoir certainement l'organisation du mondial de football et que la FIFA en a aussi rien à péter. Hein. Mais c'est chouette, l'Arabie Saoudite, continuons à y aller. Alors, je vais me dépêcher avant que tu n'aies plus le temps. Oh, il nous reste encore du temps, voilà, pour que tu puisses parler du loup.
Ouais, il fait un peu
oui,
de Corée du Sud.
Mais oui, tu vas
voir. C'est un sketch là-bas, ce qui s'est passé.
Alors, le sketch. Le sketch, c'est la Corée du Sud, quand un président, M. Yoon, pète une durite. Alors, il a été élu en 2022, ce président de droite, très conservateur, très d'extrême droite. Un grand pourfendeur de la femme. Il déteste le féminisme. Oui. Il a même voulu faire tout détruire, depuis qu'il est arrivé tout de suite, ça faisait même partie de son programme d'ailleurs, de détruire tout ce qui concernait l'avancée du droit des femmes en Corée du Sud, et qui en ont bien besoin, hein, les femmes, d'avoir des mouvements. Il y avait un ministère donc pour aider les femmes, il voulait tout mettre à bas. Bon, sauf que du coup, il a connu une défaite aux législatives, qui se retrouve lui aussi dans le caca. Décidément, ça va mal pour les conservateurs et la droite. Le parti du pouvoir au peuple, le PPP, a été donc battu en avril dernier par le Parti démocrate de centre-gauche. Et donc, il se retrouve en galère. D'autant plus qu'il a des petites galères personnelles. Sa femme, elle aurait peut-être été un peu piquée dans la caisse. Il y aurait peut-être un peu de la corruption. Donc, il a des soucis familiaux assez importants, hein, le président Yoon Suk Yeol. Et donc, il prend une décision que Libération traite de ubuesque. Je suis bien d'accord. Et il décide donc d'imposer la loi martiale. Et quelques heures plus tard, se voilà-t-il qu'il doit la lever, cette loi martiale. Mais là, la Corée, les Sud-Coréens nous ont démontré qu'il y a une capacité à vouloir sauver la démocratie qui est quand même exceptionnelle. Il y a une réaction extrêmement vive, des gens dans la rue. Et aujourd'hui, c'est pas fini, hein. Il se passe des tas de choses. En tout cas, on a un pays qui a fait face à ce qui aurait pu passer pour une tentative de coup d'État. Alors, c'est pour les observateurs, les observatrices, c'est peut-être pas forcément le cas. Il aurait juste voulu sauver sa peau. Et donc, en mettant cette loi martiale, il aurait voulu virer les partis d'opposition qui tentent de le faire chuter. Il a parlé d'activités nord-coréennes et que donc ces partis de gauche seraient liés aux nord-coréens. Un truc complètement inimaginable. Ouais. Enfin, surtout que il n'y avait pas plus de mouvements ces derniers temps qui amèneraient à devoir défendre la Corée du Sud face à la Corée du Nord. Alors certes, la Corée du Nord s'est associée à la Russie, tout ça, mais le territoire sud-coréen n'était pas plus en danger que les jours précédents. Donc on pense qu'il a voulu peut-être bien sauver sa peau par un geste un peu désespéré. Parce qu'il est dans la merde. En tout cas, voilà, l'idée, c'est d'échapper à des enquêtes criminelles. Et puis donc de sa femme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, donc du côté de la motion de destitution déposée par 6 partis d'opposition, on parle d'ailleurs d'une décision motivée par une volonté d'échapper à des enquêtes criminelles impliquant le président Yoon et sa famille, et sans aucun des prérequis constitutionnels tels que la présence d'une guerre et d'une rébellion armée ou d'une urgence nationale comparable. Donc vous l'aurez compris, il a chaud aux fesses. Donc en tout cas, à 22h30 en direct à la télévision, le président Yoon Suk Yeol annonce donc la mise en place immédiate de la loi martiale. Poum, mardi. Voilà. Il a une rhétorique, hein, c'est aussi un chef de droite et d'extrême droite qui sait causer un peu comme à la Trump, vous voyez. Un bonhomme, quoi. Explique donc qu'il faut se battre contre les opposants pro-Corée du Nord qui veulent paralyser le gouvernement et l'ordre constitutionnel. Les hélicoptères se mettent en place au-dessus de Séoul. Les militaires et les policiers sont envoyés devant l'Assemblée nationale pour empêcher quiconque de rentrer à l'intérieur et de s'opposer aux ordres du président. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la loi martiale, elle impose une fermeté auprès des médias qui sont placés sous surveillance du gouvernement, de l'État, et puis une interdiction de toute activité politique. Et pourtant, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les élus de l'opposition qui descendent dans la rue, se mettent en route tous et tout ensemble vers l'Assemblée nationale. Ils veulent voter contre la loi martiale et donc pour ça, il faut qu'ils rentrent dans cette Assemblée comme l'autorise la Constitution. Mais pour entrer dans le bâtiment, ils doivent passer les militaires et les policiers qui sont en place. On a donc à la télévision des politiciens et des politiciennes élus qui se mettent donc à grimper le portail de l'Assemblée, hein, c'est-à-dire les trucs qui sont mis en place avec les grilles, les pics et tous les machins. On voit donc ces hommes et ces femmes qui vont passer le chemin, qui vont aussi s'adresser, je vais en revenir plus tard, qui vont s'adresser donc directement aux soldats pour les faire reculer. Personne n'est blessé. C'est quand même assez incroyable. Il faut dire qu'il y a des soldats, je vous rappelle que le service militaire étant une obligation longue et difficile pour les jeunes coréens, certains n'ont même pas moufté, ont laissé faire. Hein, voilà. Donc en urgence, les députés parviennent à voter à l'unanimité contre la loi martiale, à 190 voix contre 0. Voilà, pouf, ça c'est fait. Le président doit donc se plier au vote. S'il le refuse, l'Assemblée peut lancer une procédure de destitution. Là-dessus, Monsieur Yoon Suk-yeol finit donc par lever la loi martiale à 4h30 du matin. Les manifestants et les manifestantes se sont réunis et chantent à l'extérieur. Et puis, par exemple, on a eu le cas de l'ancien président Monsieur Moon, hein, vous savez, qui a lutté contre les dictatures, qui a été emprisonné, qui a dit « La démocratie en République de Corée est dans une situation désespérée. » Sur le coup, voilà, il réagit quand même lui aussi. Et il avait enjoint les soldats à ne pas appliquer la loi martiale. D'ailleurs, l'armée a pour beaucoup joué un rôle de garde-fou puisque les militaires ont respecté le vote de l'Assemblée nationale et finalement même certains militaires et hauts gradés auraient peu suivi les ordres de Monsieur Yoon. Voilà, ils auraient été mis au pied du mur, ils n'auraient pas du tout apprécié la méthode. En tout cas, du côté du parti démocrate, donc la principale force d'opposition, il y a donc une plainte qui a été amenée contre le président, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, qui tout de suite, le ministre de la Défense a dit qu'il voulait bien servir de punchable, sauf que ça serait a priori pas suffisant. Donc ils sont accusé de rébellion. C'est un chef d'accusation qui est passible de la peine de mort en Corée du Sud. Oui, je sais.
Avec la Corée du Nord, c'est pour ça, ouais.
Ouais, et puis la Corée du Sud, je sais, il n'y a plus la peine de mort. Pourtant, elle peut demeurer dans quelques cas très exceptionnels, dont celui de rébellion pour le président ou la présidente. En tout cas, il y a une enquête parlementaire qui a démarré. Il y a eu l'audition du général Park Han-soo, le chef d'état-major de l'armée, qui a commandé cette loi martiale, qui lui donc a expliqué qu'il est bon, globalement ça lui avait pas bien plu. Il y a une enquête qui est menée. Il y a une plainte qui est donc déposée, comme je vous le disais, qui a été aussi déposée par 59 militants et militantes. Donc l'affaire est pas finie. En tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est donc, je vous le disais, un pays qui a réagi. Et puis, on a des médias aussi qui ont largement réagi, qui se sont réunis, journalistes, en masse devant le Korea Press Center pour opposer une résistance face à cette loi martiale qui leur clouait le bec. Voilà. Même si c'était très court, ça les a quand même un peu sidérés, il faut bien le dire. Et puis, la Confédération coréenne des syndicats a appelé une grève illimitée des travailleurs et des travailleuses. Il y a des manifestations et des grèves qui ont eu lieu un petit peu partout dans le pays ces dernières heures. Globalement, ce qui s'est passé a choqué globalement un pays qui a connu quand même plusieurs dictatures dont les syndicats commencent tout juste à émerger. Alors, ils sont forts dans certains endroits, mais ça reste quand même une gageure de faire vivre des syndicats dans des plus petits endroits. Et puis, on a vu des hommes et des femmes se raser le crâne. Je vous rappelle que c'est un acte de protestation issu du confucianisme en Corée du Sud. Ça se faisait beaucoup sous les dictatures dans les années 60 et 70. Les étudiants savaient réagir par la force et la résistance armée et aussi par la propagande, mais aussi par ce geste du rasage du crâne. En tout cas, c'est donc un fiasco. Et puis, il y a une femme qui est sortie du lot. Elle s'appelle Han Gui Ryong. Elle était au milieu de la foule quand ses élus se sont dirigés vers l'Assemblée nationale. Et elle s'est adressée à un soldat avec son arme. Elle lui a gueulé dessus en lui disant « Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte ». Ça a été une scène qui a été filmée, qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Elle était déjà connue pour être une grande gueule, globalement. En novembre dernier, elle avait pris une amende pour ordre à l'ordre public. Elle avait utilisé des haut-parleurs pendant un événement de campagne, ce qui est interdit. Elle se bat contre M. Yoon pour demander des enquêtes depuis un petit bout de temps contre lui et sa femme, hein, voilà, sur des faits de corruption. Ce qui est intéressant, c'est que elle a été qualifiée d'héroïne, de résistante, de protectrice de la démocratie, enfin tout ça, tout ça. Mais parallèlement à ça, sur les réseaux sociaux, elle subit une attaque sans précédent. C'est un peu vrai quand même, sans précédent pour en si peu de temps, on va dire ça comme ça, pour une politique femme de tous ces hommes qui aiment beaucoup Monsieur Yoon et c'est son antiféminisme. Elle s'est donc fait traiter de salope plusieurs fois, bien évidemment. Ce que j'ai lu dans la presse, c'est que certains ont tweeté, on dirait que les femmes de ce pays se prennent vraiment pour des dragons célestes. C'est une insulte. Hein. Comment a-t-elle pu penser pouvoir prendre son arme à un soldat? C'est bien vrai. D'autres, je n'ai jamais vu une salope d'essayer de désarmer un militaire. Cette com devrait aller en prison, hein, parce qu'elle est une salope éconne aussi. Hein, voilà.
C'est sympa quand même. Hein.
Voilà, cette femme qui touche un fusil n'a pas toute sa tête, c'est une putain d'hystérique. Ah bah oui, parce que la putain, l'hystérique, la salope conne, ça, voilà, il fallait aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est certainement une femme dont on va réentendre parler dans toute cette affaire. Et on attend donc de savoir si M. Yoon va démissionner ou s'il va attendre une destitution qui peut prendre quand même près de 180 jours, une fois que celle-ci pourrait être acceptée. Voilà, donc ça peut être un peu long. Donc tout le monde espère qu'il va se barrer avant.
Ouais. Et bien on va terminer ce qu'il y a info en parlant du loup. Parce que c'est sympa, le loup, ou pas. Donc il y a une décision qui a fait hurler les défenseurs et les défenseuses de l'environnement et de la faune sauvage, puisque sous la pression des éleveurs et des éleveuses, les 49 États membres de ce qui s'appelle la Convention de Berne se sont mis d'accord il y a deux jours à Strasbourg pour abaisser le niveau de protection du loup en Europe. Ça a énervé pas mal d'écolos et de gens donc, qui défendent un peu la faune sauvage, qui ont peur que ce soit le premier pas vers autre chose, vers la banalisation de l'attaque contre la faune sauvage. On commence par le loup, on va passer à l'ours, au cormoran, au lynx, à tout ces, cette vie qui embête le capitalisme finalement, qu'il soit agricole, éleveur ou autre. Alors, on rappelle que le loup a été exterminé chez nous au début du XXe siècle. Il a fait son grand retour il y a quelques années. Cette présence, elle suscite forcément des réactions, voire la colère de certains agriculteurs et agricultrices qui dénoncent les attaques de troupeaux. Donc il y a eu des manifestations récemment et on aura bientôt encore des agriculteurs, et notamment c'était le cas sur le loup voilà, où ils ont mis la pression pour que la Convention de Berne change d'avis. Alors ce changement de niveau dans la convention de Berne, donc le loup était une espèce strictement protégée, maintenant c'est juste une espèce protégée. Ça veut dire que il peut y avoir des chasses. Alors ça ouvre pas la chasse à tout le monde qui sort son fusil qui va descendre un loup, non pas du tout, mais ça ouvre la possibilité de faire des chasses plus souvent de manière plus facile. Donc ça va généraliser un petit peu la possibilité de tirer sur des loups et de tuer des loups. Mais il y a quand même ça reste quand même encadré. C'était porté entre autres par la présidente de la Commission européenne, la droitière Ursula von der Leyen, qui a salué cette mesure qu'elle trouve importante pour nos éleveurs. Oui, bien sûr, on est d'accord ou pas avec elle, mais nous pas plutôt. Il y a eu tout ça, les écolos sont pas contents, ça va rentrer en vigueur dans 3 mois, alors c'est un peu compliqué parce que soit c'est accepté tel quel et c'est mis en œuvre, soit il y a un tiers des partis de la Convention de Berne, ils sont 17, hein, s'y opposent, et dans ces cas-là, ça veut dire que seuls ceux qui sont d'accord vont le voter, vont le mettre en œuvre. Bon, c'est un peu technique, mais en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que sur les 17, il y en a que 5 qui ont voté contre, le Royaume-Uni, Monaco, le Monténégro, l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine. La France a bien évidemment voté pour le changement de statut du loup. Alors, je vais vous lire le communiqué maintenant de la Confédération Paysanne, qui s'appelle « Espèces loup, l'urgence est de protéger les troupeaux de la prédation ». Voté en comité permanent de la Convention de Berne ce 3 décembre, l'espèce loup va être requalifiée en espèce de faune protégée, ce qui ouvrira la possibilité de réguler les loups par la chasse. Pour certains, Cette méthode de régulation semble être la condition sine qua non pour faire face à la prédation. Seulement, le taux de prélèvement restera le même. Il nous paraît donc irresponsable de faire croire qu'abattre 200 loups au hasard sera efficace pour protéger les animaux. Car l'urgence est bien là, protéger les troupeaux. Nous demandons donc aux responsables agricoles et politiques de sortir des postures manichéennes. C'est avant tout la régulation des attaques qui doit être recherchée, c'est-à-dire des tirs ciblés en situation d'attaque par la louveterie ou la brigade OFB sur les élevages prédatés, afin de soulager concrètement les éleveurs et éleveuses dans le cadre de la protection des troupeaux. Par ailleurs, cela doit s'accompagner d'actions que nous revendiquons de longue date au sein du groupe GNL, Groupe National Loup. Deux points, le financement de la protection des troupeaux à 100%, l'anticipation de la protection pour les éleveurs volontaires, le financement de la protection pour les éleveurs bovins volontaires, la mise en place de programmes de recherche avec la pose de GPS sur les meutes pour amener de la connaissance sur le comportement des loups. Pour la Confédération paysanne, l'élevage paysan plein air, le pastoralisme, sont incontournables pour notre agriculture, notre alimentation et pour la dynamique des territoires. La protection des troupeaux et la défense des éleveurs et éleveuses sont donc la priorité. Et là, on se rend compte que même avec la Confédération paysanne, le loup, ça pose quand même question. Et ce qui est le plus important, finalement, c'est l'aspect économique, c'est-à-dire c'est les troupeaux et des éleveurs et des éleveuses. Et on se dit que c'est pas gagné, qui est quand même la Confédération paysanne, le seul parti, groupe de gauche au sein du monde agricole. Même eux, le loup reste un ennemi. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire du loup. Alors, les loups sont en Europe hein, depuis longtemps. On pense à peu près à 2 millions d'années avec une espèce qui s'appelait Canis etruscus. Bon, bref, j'ai pas fait latin en première langue. De nos jours, en fait, on a des loups gris, le Canis lupus, qui est réparti sur l'ensemble de l'hémisphère nord, en Eurasie et en Amérique du Nord. C'est la l'espèce de canidée la plus répandue au monde. La France, il y a 3 sous-espèces qui se baladent, le loup ibérique, le loup italien et le loup d'Europe, qui est très connu, hein, c'est le Canis lupus lupus. Mais ça, en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. On rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un moment où le loup était présent sur tout le territoire, quasiment, 90%. Et puis, il y a eu une décision de s'en débarrasser et le loup a été totalement éradiqué, détruit, assassiné en 1939. Il n'y avait plus de loup sur le territoire français. 50 ans plus tard, en fait c'est en 92, très exactement, le loup revient. Alors, il revient naturellement. En fait, c'est pas comme l'ours où on a réintroduit, etc. Pas du tout. Là, c'est un retour naturel, notamment en provenance du massif des Abruzzes en Italie. Et il s'est remis, il a recolonisé progressivement les Alpes, le massif central, la partie orientale des Pyrénées et les Vosges. Il aime les parties un peu montagneuses. Mais en fait, il se déplace pas mal et on a vu des loups dans le Finistère ou dans le bassin parisien. Hein, même si ils sont pas hyper nombreux. Alors, qu'est-ce qui a pu favoriser ce retour finalement ? Bon, en fait, c'est les phénomènes inverses à ceux qui avaient contribué à sa disparition. La déprise agricole. La déprise agricole, c'est que notamment il y a eu une libération d'espaces sauvages, ce qui fait qu'il y a des forêts qui sont réapparues, qui ont repoussé, et donc ça lui a fait du territoire en plus. Il y a aussi, donc, avec ces forêts, du gibier, et ce qui l'incite à revenir, puisqu'il a de quoi manger. En fait, le loup a profité un peu de l'évolution du contexte environnemental et juridique en France pour revenir, et pas qu'en France, ailleurs aussi. Voilà. Donc c'est un retour qui a quelques effets. On pense à la multiplication des attaques contre les troupeaux. Alors c'est vrai que les éleveurs et les bergers avaient complètement perdu l'habitude de vivre avec cet animal, puisqu'il avait été éradiqué en 1939. Donc il y a eu pas mal de choses qui impactent ce pastoralisme. Il n'y a pas que le retour du loup. En fait, tout a changé depuis le début du XXe siècle. Les bovins ont été remplacés par des moutons, des chèvres, qui sont quand même plus facilement attaquables par le loup. Les troupeaux sont devenus de plus en plus gros, il n'y a plus de chiens pour les gérer. Et donc tout ça a fait que quand le loup est revenu, s'il croise un troupeau, il peut aller se servir assez facilement. Donc, il a fallu se réadapter. Donc, il y a des choses qui sont mises en œuvre avec des chiens, les patous, vous savez, vous les connaissez, il n'y a pas que lui, pour aider. Il y a aussi que les bergers soient plus nombreux et qu'ils aient les moyens de faire fuir le loup avec des fumigènes. Il y a des barrières qui ont été mises aussi. Il y a plein de choses. Il y a même une vache. Si on cultive la vache, on élève la vache Erens. C'est une sorte de vache de combat et qui désintègre. Qui fait que le loup il se barre, une désingueuse de loup on va l'appeler. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a très peu de troupeaux qui sont attaqués. 75% des éleveurs ne subissent qu'une ou deux attaques par an. Mais il y en a 10% qui en subissent plus de 10. Et c'est eux qui sont médiatisés, qui mettent tout en avant. Alors on va donner des chiffres un petit peu. Il y a 5 millions d'ovins qui sont tués chaque année par nous, l'être humain. Nous, on en tue 5 millions. Le loup, il en tue 12 000. Les maladies en tuent 300 000. Et il y en a 500 000 qu'on envoie à l'écarissage sans les manger. Ça donne l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire que le loup, c'est minoritaire dans tout ça. Donc, il y a une espèce d'image négative du loup à travers les histoires, les contes, les légendes, qui est dans l'imaginaire collectif, qui est manipulé, mis en œuvre, mis en avant par les éleveurs parce que ça les embête. Et tout ça fait que le loup, c'est toujours considéré comme l'ennemi. Or, il y a des études sur les attaques, je vais terminer là-dessus. Il y a des études sur le nombre d'attaques de loups. En fait, sur les États-Unis d'Amérique et l'Europe du Nord, grosso modo, il y a en tout 75 000 loups, des centaines de millions de personnes, il n'y a quasiment pas d'attaques. Il y a eu quelques attaques avec des agressions sur des êtres humains, mais c'est très très rare. Et ça rentre même pas dans les pourcentages tellement que c'est faible. Donc en fait, il y a une mythologie autour du loup qui correspond pas à la réalité. Et donc il y aurait peut-être un travail à faire pour changer les mentalités de la population, des éleveurs et des éleveuses, pour faire qu'il y ait une acceptation, une cohabitation avec cet animal qui est ultra utile.